Les grands feuilletons de France Culture.
Le crime d'Orcival.
D'après l'œuvre d'Émile Gaborio. Adaptation Henri Wetzmann.
Quatrième épisode, un drame de famille.
Résumé du troisième épisode.
Ayant procédé à un interrogatoire plus serré des deux braconniers, le juge Domini maintient la ripaille en état d'arrestation et remet en liberté son fils Philippe.
Mais on n'a toujours pas retrouvé le cadavre du comte de Trémorel. Et le juge d'instruction a donné l'ordre de sonder le fleuve.
Tandis que M. Domini compulse ses notes, le docteur Gendron et le juge de paix Plantin s'entretiennent sur la maladie qui a emporté Sauvresy.
Et le maire, M. Courtois, harangue les villageois qui veulent faire un mauvais parti à Philippe libéré.
Puis un inconnu se présente au juge d'instruction. C'est M. Lecoq, inspecteur de la sûreté de la préfecture de police. M. Domini, après les présentations, veut lui communiquer les premiers éléments de l'affaire, mais M. Lecoq lui dit très poliment que c'est inutile, qu'il les possède déjà, et il le prouve en les énumérant.
Au château du Valfeuillu, dans le salon bouleversé.
Avant toute chose, monsieur Lecoq, bien que vous prétendiez en savoir autant que nous, je vous prierai de prendre connaissance du bref mais excellent rapport que monsieur Courtois, maire d'Orcival, a rédigé avant mon arrivée et qui vous sera sans doute utile.
À n'en pas douter, monsieur, merci.
Alors je vous présente donc à monsieur le maire que voici.
Mes respects, monsieur le maire. Je lirai votre rapport avec toute l'attention désirable.
Je vous remercie et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je connais tout le monde ici.
Je ne manquerai pas de vous consulter.
Je vous présente à M. Planta, juge de paix à Orcival, qui était là au début de l'enquête.
Monsieur le juge de paix.
Heureux de faire votre connaissance.
Et voici le docteur Gendron, qui exerce à Melun.
Monsieur le docteur.
Enchanté. Vous savez, je suis venu à la demande de mon ami le juge d'instruction, Domini, mais je suis plutôt un homme de laboratoire qu'un médecin traitant.
Vos lumières nous sont sûrement précieuses, docteur.
Merci.
Bien, alors maintenant, nous allons, si vous le voulez bien, parcourir les lieux.
Je vous en prie.
Allez par ici.
Rendusez-vous, monsieur le juge de paix.
Mais ça donne soif, une soif.
Merci, c'est bon dans la gorge, n'est-ce pas, docteur?
C'est excellent, c'est excellent.
Savez-vous, monsieur Lecoq, que j'ai beaucoup apprécié votre méthode préalable aux investigations, en quelque sorte.
Toutes ces taches de sang, si ce n'est pas malheureux.
Comme vous avez raison, monsieur l'agent, de plaindre ces pauvres victimes.
Évidemment, je les plains. Pardonnez-moi, je pensais aux assassins.
Quoi ?
On ne s'allie pas ainsi quand on tue pour voler. On prend ses précautions, que diable ! Ah non, je n'ai pas affaire à mes pratiques habituelles.
Monsieur l'inspecteur, c'est bien le titre qu'on vous donne, n'est-ce pas ?
La plupart du temps, oui, monsieur le juge.
Il me semble que nous sommes déjà en possession d'éléments qui doivent singulièrement faciliter votre tâche. Il est clair que Guespin, même s'il n'est pas complice du crime, en a eu du moins connaissance.
Il est de fait que cet individu est bien compromis. Mais pourquoi ne veut-il pas dire où il a passé la nuit ? Et d'un autre côté, il a contre lui l'opinion, et alors moi, naturellement, je me méfie et je me défie.
Admirez le travail. Ils ont tout cassé.
Les imbéciles. On ne défonce pas les meubles, on porte avec soi de jolis rossignols qui ne font aucun bruit, mais d'excellentes besognes. Tout démolir. Des idiots ou des maladroits.
Tiens. Pas si maladroit, pas si bête que cela, peut-être.
Mais que faites-vous ainsi ?
Mais que cherchez-vous à genoux ?
Non, mais le tapis, là, là.
Où ça ?
Ici.
Oui.
Il est humide, très humide.
Ah bon ?
Tout le thé n'était pas bu quand on a cassé la porcelaine.
Ah,
Il aurait dû rester beaucoup de thé dans la théière.
Je vous sais, monsieur le juge de paix, c'est pourquoi cette humilité ne suffit pas pour nous donner le moment précis du crime.
Mais la pendule nous le donne, et très exactement.
En effet, vous pourrez lire dans le procès-verbal de monsieur le maire que dans la chute de la pendule, le mouvement s'est arrêté.
Justement, cela m'a frappé aussi. La pendule marque 3h20. Or, la comtesse était complètement habillée, comme dans la journée, quand elle a été frappée. Être encore debout et prendre son thé à 3h du matin. Étonnant, non?
Vous avez raison, monsieur le juge de paix. Pas si bête que cela, ai-je dit tout à l'heure. Eh bien, nous allons bien voir.
Pourquoi vous prenez la pendule?
Là, comme cela, en calant bien cette pendule.
Oui.
Elle marque donc 3h20.
C'est bon.
Oui. Curieuse heure, en effet, pour prendre le thé.
Oui.
Bien, poussons la grande aiguille sur la demi-heure. Voilà.
Quatre.
Onze heures, messieurs, voilà la vérité.
Oh. Oh, bravo, j'avoue n'avoir pas songé à ce moyen de contrôle.
Donc, nous avons en face de nous non plus des brutes, comme j'ai failli le croire d'abord, mais des gredins qui voient plus loin que le bout de leur couteau.
Certainement, oui.
Ils l'ont peut-être mal calculé, leur affaire. Mais ils l'ont calculé. L'indication est précieuse. Ils ont l'intention d'égarer l'instruction en la trompant sur l'heure.
Je ne discerne pas clairement leur but.
Mais il est cependant très visible, mon cher Courtois. Enfin, n'était-il pas de leur intérêt de faire croire que le crime a été commis après le dernier passage du train se dirigeant sur Paris? Quittant ses camarades à 9h à la gare de Lyon, Guespin pouvait être ici à 10h, assassiner ses maîtres, s'emparer de l'argent et regagner Paris par le dernier train.
Supposition admirable, mon cher Dominique.
Ah oui.
Mais alors, comment se fait-il que Guespin ne soit pas allé rejoindre ses camarades chez Vepler au Batignolles? Oui, par là, et jusqu'à un certain point, il se ménageait un alibi. Autre chose encore, cette avancée de l'heure,
oui,
très utile à Guespin, peut devenir accablante pour Larry Paille, son soi-disant complice.
Oui, mais il se peut fort bien que Larry Paille n'ait pas été consulté. Guespin avait probablement de bonnes raisons pour ne point se présenter à la noce. Son trouble, après un pareil forfait, lui aurait nui plus que son absence. Hein? Qu'en pensez-vous, monsieur Lecoq?
Oui, qu'en pensez-vous?
Pour l'instant, je pense seulement que le coup a été fait avant 10h30.
À moins que la sonnerie de la pendule ne soit détraquée, ce qui arrive parfois.
Et oui, la pendule de mon salon est dans cet état depuis je ne sais combien de temps.
Il se peut que monsieur le juge de paix ait raison. J'ai pour moi la probabilité, mais probabilité n'est pas certitude. Il faut la certitude. Il nous reste par bonheur un moyen de vérification.
Lequel?
Le lit.
Comment ça, le lit?
Le lit. Oui, le lit. Je parie qu'il est défait. Et si l'un de vous, messieurs, veut bien me donner un coup de main?
Je vais vous aider, Lecoq.
Bien, enlevons d'abord le ciel de lit et les rideaux.
Oui, oui.
Vous tenez bien, monsieur Plantard?
Attention, là. Allez-y, je tiens, vous pouvez tirer.
Bon. Vas-y. Là. Voilà qui est fait. Qu'est-ce que je disais?
Effectivement. Le lit est défait.
Oui, défait, oui. Mais on ne s'y est pas couché.
Comment? Cependant...
Non, je suis sûr de ce que j'avance.
Mais enfin, voyons...
On a ouvert ce lit.
Oui.
On s'est peut-être roulé dessus, on a chiffonné les oreillers, froissé les couvertures, fripé les draps. Mais on n'a pas réussi à lui donner l'apparence d'un lit dans lequel deux personnes ont dormi. Défaire un lit est plus difficile peut-être que de le refaire. Pour le refaire, il n'est pas indispensable de retirer draps et couvertures, de retourner le matelas. Mais pour le défaire, il faut absolument se coucher dedans et y avoir chaud. Un lit est un de ces témoins terribles qui ne trompent jamais. Or, on ne s'est pas couché dans celui-ci.
Ah, il est très fort. Ah, il est très fort, alors là.
Nous savons que la comtesse était habillée, mais le comte pouvait s'être couché le premier.
Non.
Peut-être.
Non. Et je puis vous le prouver.
Mais comment?
La démonstration est facile, d'ailleurs.
Écoutez.
Tenez, regardez.
Oui.
Ces deux oreillers sont froissés, n'est-ce pas?
Oui.
Voilà. Mais voyez en dessous le traversin. Il est intact.
Oui.
effet.
Vous n'y trouverez aucun de ces plis qui laissait le poids de la tête et le mouvement des bras. Et ce n'est pas tout, regardez. Regardez bien le lit à partir du mi-temps, là, jusqu'à l'extrémité. Bon. Comme les couvertures ont été bordées avec soin, les deux draps se touchent bien partout.
Oui,
en effet. Alors tenez, tenez, Planta.
Oui, Lecoq.
Glissez la main comme moi.
Attendez, là.
Bon, eh bien, oui. Vous sentez une résistance qui n'existerait pas si les jambes s'étaient allongées à cet endroit. Oui. Or, monsieur de Trémorel, d'après ce qu'on m'a dit, était de taille à occuper le lit dans toute sa longueur.
Mais oui, il paraît donc évident que monsieur de Trémorel ne s'est pas couché.
Et au surplus, si on l'eût assailli dans son lit, ses vêtements seraient restés sur quelques meubles.
Oui, à moins que les brigands ne les aient enlevés et emportés. De toute façon, on devrait découvrir sur le drap au moins une goutte de sang.
Oui.
Vérifions. Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Ce qui me paraît surprenant à moi, c'est qu'on soit parvenu à tuer chez lui, autrement que pendant son sommeil, un homme jeune et vigoureux comme l'était le comte Hector.
Et dans une maison pleine d'armes. Car le cabinet du comte, vous l'avez vu, est entièrement tapissé de fusils, d'épées, de couteaux de chasse.
Gendron.
Oui.
Si des assassins pénétraient chez moi.
Oui.
Et bien que je n'ai plus l'énergie physique d'un homme de 35 ans, mais il me semble qu'avant d'être tué, d'abord je me serais défendu. J'aurais crié, j'aurais réussi à donner l'éveil, j'aurais mis le feu à la maison, j'aurais... Enfin, je ne sais pas, mais je...
Et ajoutons qu'éveillé, il est difficile d'être totalement surpris. C'est un bruit insolite, une porte qui grince, une marche qui craque. Si habile que soit un meurtrier... Il ne foudroie pas sa victime.
À moins qu'il ne se serve d'une arme à feu.
Non, le bruit qu'elle aurait fait aurait alerté le voisinage.
Ah, permettez. Dans une cité populeuse, oui. Mais là, au milieu d'un vaste parc, le parc de la marquise de la Nascole est proche de celui de Valfuyu, d'accord. Mais le bâtiment est tout au fond et environné de grands arbres qui interceptent le son. Voulez-vous qu'on tente une expérience?
Quoi donc?
Je vais tirer un coup de pistolet, ici, dans cette chambre. Vous allez dans le chemin. Et je parie que vous n'entendrez pas la détonation.
Oh, le jour, peut-être, mais la nuit...
Non, écoutez, c'est inutile. Bon, revenons au fond. Si Guespin ne se décide pas à parler, c'est le cadavre retrouvé du comte qui nous donnera le mot de l'énigme.
Si on le retrouve.
Eh bien, monsieur Lecoq... Avez-vous recensé quelques indices nouveaux?
Rien de décisif. Mais rien non plus qui dérange mes prévisions. Toutefois...
Quoi? Oui.
Comment dire... Je ne tiens pas bien mon affaire. J'ai bien ma lanterne, mais il me manque une allumette.
Oh.
Oui, j'hésite encore. Écoutez, j'ai besoin d'être aidé. Par exemple, si monsieur le docteur daignait prendre la peine de procéder à l'examen du cadavre de madame la comtesse de Trémorel, il nous rendrait un grand service.
J'allais précisément vous adresser pareille requête, mon cher ami.
Volontiers, quand vous voudrez.
Non, pardonnez-moi, docteur.
Oui.
Je me permettrai d'attirer votre attention sur les blessures faites à la tête de madame de Trémorel.
Oui.
Par un instrument contondant que je suppose être un marteau. J'ai étudié ces blessures, moi qui ne suis pas médecin, et elles me paraissent suspectes.
Ah, moi aussi.
Il m'a semblé qu'il n'y avait pas eu, aux endroits atteints, effusion de sang dans les vaisseaux entamés.
La nature de ces blessures me sera un indice précieux, m'éclairera. Donc c'est vous, docteur, qui tenez l'allumette.
Qu'est-ce que c'est? Entrez!
Oh, monsieur!
Baptiste? Que venez-vous faire? Je ne vous ai pas demandé.
Je viens chercher monsieur.
Moi? Mais qui est-il?
C'est rapport à madame Courtois que nous avons cru devoir vous déranger, monsieur.
Comment?
Elle n'est pas bien du tout, madame.
Ma femme? Mais qu'a-t-elle? Que veux-tu dire? Mais parle!
Eh bien voilà. Le facteur arrive tout à l'heure avec le courrier.
Oui.
Bon, je porte les lettres à madame qui était dans le petit salon.
Oui.
À peine avais-je le dos tourné pour repartir... que j'entends un grand cri.
Un grand cri.
Et comme le bruit d'une personne qui tombe à terre de son haut. Je retourne. Et qu'est-ce que je vois? Madame étendue à terre.
Et après?
Allez, vite, 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 pas de phrase.
J'appelle du secours. La femme de chambre arrive, la cuisinière, les autres. Et nous portons madame dans son lit. Il paraît, m'a dit Justine, que c'est une lettre de mademoiselle Laurence qui a mis madame dans cet état.
Laurence. Oh, mon Dieu. Mon Dieu.
Une lettre de mademoiselle Laurence? Elle n'est donc pas à Orcival?
Ah non, monsieur. Mademoiselle Laurence est partie. Il y a eu hier 8 jours pour aller passer un mois chez la sœur de madame.
Mais comment était madame Courtois quand vous avez quitté la maison?
Ah, mieux, monsieur. Mieux. Ah bon? Mais elle pleure à fendre l'âme.
Viens, Baptiste. Viens. Messieurs, messieurs, pardonnez-moi. Je vous accompagne.
Pauvre homme. Mais qu'a-t-il pu bien arriver à sa fille? Morte, peut-être?
Oh oui, si ce n'était que cela. Rappelez-vous, monsieur le juge, la curieuse phrase de la ripaille. Oh, j'en connais qui, si je voulais babiller. On voit bien des choses quand on court la nuit.
Mais est-ce que les allusions de la ripaille auraient-il insinué que mademoiselle Laurence...
Personne n'a le droit de parler de mademoiselle Laurence. Oh, excusez ma vivacité, messieurs. Mais c'est que... C'est que mademoiselle Courtois est une jeune fille qui a droit à tous les respects. Quand je pense que l'honneur d'une femme, la réputation d'une jeune fille peuvent être à la merci du premier gredin doué d'assez d'imagination pour inventer je ne sais quoi d'abominable qui permette à un Larry Pike de lancer des insinuations. Non. Non, la petite doit être menacée. Ou en tous les cas, en danger.
Mais nous le saurons bientôt. Mais excusez-moi, l'heure tourne et il faut nous hâter. Partageons-nous du moins la besogne. Pendant que Jean Andron procédera à l'autopsie, je rédigerai mon projet de rapport pour le procureur. Il vous appartient, inspecteur, de poursuivre les investigations. Et si M. Planta veut bien vous aider par sa connaissance du pays...
Oh, mais certainement.
J'en serais ravi.
Bon, parfait. Mon greffier ne va pas tarder à me rejoindre dans la bibliothèque où je vais m'isoler. À tantôt, messieurs.
À tantôt.
À tantôt, Dominique.
Ouf. Nous allons pouvoir travailler tranquillement. Parce que voyez-vous, monsieur le juge de paix, arriver quand une instruction est commencée, c'est déplorable.
Hein?
Les gens qui vous ont précédé ont eu le temps de se construire un système, et si vous n'adoptez pas d'emblée, c'est le diable. Tenez, par exemple, monsieur le juge d'instruction se croit en présence d'une affaire toute simple. Moi, je pense au contraire qu'elle est très compliquée. Et je n'y vois pas encore clair.
Je comprends cela.
En vrai, je suis dérouté. Je devine quelque chose sous tout cela. Mais quoi?
Quoi? Peut-être, en effet, y a-t-il quelque chose?
Permettez-moi d'être franc, monsieur le juge de paix.
Au point que vous pouvez m'appeler Planta.
Merci. Eh bien, j'ai, primo, le sentiment que vous ne partagez pas tout à fait les opinions du juge Domini.
Ah.
Et secondo, que vous en savez plus que vous ne le dites.
En ce qui concerne votre première supposition, il est évident que M. Domini et moi ne concevons pas les choses de la même façon. L'opinion du juge repose sur des faits matériels, sur des circonstances palpables. Or, la mienne est basée sur des impressions, sur une série de déductions plus ou moins logiques. Quant à en savoir plus long sur cette affaire... Je me demande ce qui vous fait penser cela.
Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Excusez-moi.
Je vous en prie.
Après tout, l'important est de tenir les deux principaux coupables et quand ils se décideront à parler, ce qui arrivera tôt ou tard, et si monsieur le juge d'instruction le veut, on saura tout.
Comment c'est vous, monsieur Lecoq, un homme habile, expérimenté, qui prétendait que c'est...
Je vous ai eu. Oh. Et non seulement vous ne partagez pas l'opinion de M. Domini, mais vous possédez des éléments d'information. Vous avez peut-être même des certitudes.
Vous êtes futé, mon cher Lecoq. Vous pensez donc que j'ai une idée de derrière la tête, comme on dit, et que je sais des choses?
Alors, M. Planta... Planta tout
voilà,
court, puisque
voilà.
Vous le permettez.
Bien sûr.
Nous sommes faits pour nous entendre. Dès lors, examinons ensemble certains points. Bon, selon le procès-verbal de M. Courtois, on a trouvé l'instrument, l'outil avec lequel on a tout brisé ici.
Oui, une hache dans une chambre du deuxième étage donnant sur le jardin. Elle était par terre devant un meuble qu'elle avait attaqué légèrement. J'ai empêché qu'on y touche.
Vous avez bien fait. Est-elle lourde, cette hache?
Oh, à la voir comme ça, elle doit bien peser 1 kilo.
Eh bien, montons la voir.
Je vous précède. Les malfaiteurs ont monté cette hache et ont attaqué cette armoire dans le seul but d'éparpiller les suppositions de l'enquête. Oui, pour compliquer le problème. Car une telle arme n'était pas nécessaire pour enfoncer le meuble qui ne tient à rien et dont je pourrais briser la porte d'un coup de poing. Non, ils ont dû porter un coup, un seul, et poser la hache tranquillement.
Je crois que vous vous trompez. Cette hache n'a pas été posée tranquillement à terre. Elle a été jetée avec une violence qui décèle une peur soudaine ou une vive colère. Tenez, voyez. Regardez là, sur le parquet.
Oui.
Ici, là, c'est 3 marques qui se suivent.
Oui, 2, 3.
Ah oui. Eh bien, la hache lancée est d'abord tombée sur le tranchant, d'où cette entaille. Puis, elle s'est retournée sur le côté. Et l'envers, qui est un marteau, a laissé cette trace. Tenez, là, ici, sous mon doigt.
Eh oui.
Enfin, elle a été lancée avec tant de vigueur qu'elle a fait un tour sur elle-même. Oui, et qu'elle est venue entailler le parquet à l'endroit où elle est maintenant, là.
Effectivement, cela me paraît juste. Décidément, je n'y comprends rien.
Beaucoup de choses vous étonneront encore. Mais c'est à force de ne rien comprendre qu'on finit par tout savoir. Dites-moi, les fenêtres qui sont ouvertes, là, l'étaient-elles ce matin lors des premières perquisitions?
Oui.
Alors c'est ça. Les malandrins ont entendu un bruit quelconque dans le jardin, et ils sont allés regarder. Qu'ont-ils vu, je n'en sais rien. Mais cela a dû les effrayer car ils ont jeté la hache et se sont enfuis. Les entailles sont en biais, donc l'arme a été lancée par une personne qui se tenait non pas près du meuble, mais près de la fenêtre.
Vraisemblablement, oui.
Les brigands pensaient opérer à loisir et pas du tout. Ils ont été surpris, on les a troublés, ils ont eu peur. Mais peur, peur de qui? De quoi? Et alors, 10 heures du soir, quand tout Orcival dort, ou 3 heures du matin, quand les matineux se lèvent?
La pendule.
Oui, 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 la pendule. La pendule, la hache. Il nous faut revoir cela d'un peu plus près, de beaucoup plus près.
Quoi, les bandits ont-ils eu peur? Vous le saurez demain à la même heure.
C'était, d'après l'œuvre d'Émile Gaborio, adaptée par Henri Weitzman,
le 4e épisode du crime d'Orcival.
Avec Jacques Charby, Jean Coste, Serge Grand, Raoul Guillet, Gérard Lartigot, Fred Persson.
Bruitage Frédéric Antoine, chef opérateur du son Guy Sonneau, collaboration technique Claude Niort, assistant de production Didier Lagarde, réalisation Jeanne Rollin-Weiss.
Cet épisode a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 16 août 1984. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger, ainsi que les épisodes précédents sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission. Et peut-être d'ici là pourrez-vous vous aventurer dans la lecture d'un autre roman d'Émile Gaboriau, La corde au cou ou L'affaire Le Rouge. Quoi qu'il en soit, demain à la même heure, le cinquième épisode du crime d'Orcival, Les certitudes du juge.